grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Le Saint-Esprit est-il, oui ou non, un membre de la famille divine, comme certains l'affirment, ou est-il la pensée, le caractère, la force agissante de Dieu? Comme nous l'avons vu la semaine dernière, nombreux sont ceux qui croient en la Trinité, convaincus que chacune de ces trois personnes est digne de recevoir les honneurs dus à Dieu. Dans la prière que Jésus adressa à son Père peu de temps avant son arrestation et les événements cruciaux qui devaient suivre, il compara l'unité qui existe entre son Père et lui à celle qui doit exister entre lui et ses véritables disciples, mais il ne mentionne pas le Saint-Esprit. Nulle part dans ses enseignements, Jésus ne mentionne le Saint-Esprit comme pouvant être une personne. Il dit notamment « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. La Bible révèle qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu est une famille que l'apôtre Jean décrit au début de son évangile. Cette famille n'est pas composée de trois personnes, mais de deux membres seulement appelés le Père et le Fils. Ces noms impliquent l'existence d'une relation familiale entre ces deux êtres. Cette famille divine s'élargira selon la volonté de Dieu. Paul écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Le Fils aura donc des frères et le Père aura d'autres fils, d'autres enfants. Déjà lorsque le Christ prononça la prière modèle, il encouragea ses disciples à s'adresser à Dieu en l'appelant « notre Père ». Lorsqu'il était en exil sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean eut une vision de la nouvelle Jérusalem. Que vit-il exactement? Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Si le Saint-Esprit est le troisième membre de la famille de Dieu, n'est-ce pas étrange que Jean voit un trône pour Dieu et pour l'agneau, et qu'il ne voit aucune place, aucun trône pour le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit est Dieu, comme le sont le Père et le Fils, ne devrait-il pas avoir une place, lui aussi, sur ce trône? Sa gloire ne devrait-elle pas éclairer aussi la ville? Avant d'être lapidé, Étienne déclara aux membres du Sanhédrin « Hommes aux coups raides, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » André Chouraki traduit le premier verset par « Vous vous êtes toujours rebellés contre le souffle sacré. Si le Saint-Esprit est Dieu, lui aussi, pourquoi n'est-il pas inclus dans la description de ce qui se trouve dans les cieux ?» Daniel eut aussi une vision qu'il décrit en ces termes. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des Jours s'assit. Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. » Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Il s'agit d'un événement important. Le Christ reçoit le royaume du monde et le Saint-Esprit est encore absent de cette vision. Dans l'introduction et la conclusion de leurs épîtres, les apôtres ne mentionnent pas le Saint-Esprit. Ce n'est qu'à la fin de sa seconde épître aux Corinthiens que Paul en fait mention. Mais voyez ce qu'il dit. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Le mot communication est traduit du grec koinonia. Dans 1 Corinthiens 1:9, ce même mot est traduit par communion. C'est ainsi qu'il est repris dans la version synodale. André Chouraki, lui, écrit « La participation au souffle sacré ». Paul souhaite ici que chacun puisse être en communion avec l'Esprit de Dieu, avec sa pensée. Jésus a déclaré « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il n'est toujours pas question du Saint-Esprit. Jésus ajoute « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » André Chouraki traduit par « le souffle de vérité qui émane du Père ». Le chanoine Crampon traduit par « qui procède du Père ». C'est exactement ce que signifie le mot original grec « exporiomei » utilisé dans ce passage. « Émaner », c'est provenir de sa source naturelle. « Procéder », c'est découler, dériver, émaner, venir de. Pour essayer de prouver la Trinité, certains citent « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Mais il ne faut pas s'arrêter ici. Continuons notre lecture. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Pourquoi le Saint-Esprit est-il exclu de ce que Jésus annonce? Parce que le Christ sait que le Saint-Esprit n'est pas une personne, qu'il n'y a pas de Trinité. La Bible n'en parle pas. Avez-vous déjà remarqué le choix des mots lorsque Jésus promit le Saint-Esprit à ses disciples? Il leur dit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Il leur recommanda de ne pas s'éloigner mais d'attendre ce que le Père avait promis. Dans le nouveau dictionnaire biblique déjà cité, je lis à la page 667 qui traite du Saint-Esprit et je cite « Le pronom personnel masculin est toujours employé à son sujet, bien qu'en grec le mot « esprit » soit neutre. » Fin de citation. Mais pourquoi dans ces deux versets, les disciples devaient attendre ce que le Père avait promis et non celui qu'il avait promis? La plupart des versions catholiques, et c'est le cas pour celle du chanoine Crampon, avec la préface de l'archevêché de Paris, insère à la première épître de Jean au chapitre 5 la petite phrase que voici, qui est reprise entre crochets. « Car il y en a trois qui rendent témoignage, dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit, et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont d'accord. » Ce texte est confirmé comme étant apocryphe dans le commentaire situé au bas de la page 229, où il est écrit, et je cite, « Dans le ciel, on ne trouve les mots mis entre crochets dans aucun manuscrit grec antérieur au XVe siècle et dans aucun manuscrit de la Vulgate antérieur au VIIIe siècle. » Fin de citation. Ce texte n'est donc pas biblique. Il s'agit d'un ajout pour appuyer une doctrine qui n'est pas biblique non plus. Alors que signifie « esprit, eau et sang » L'esprit a rendu témoignage du Christ. L'eau du baptême a rendu témoignage du Christ, elle aussi puisque l'on a été baptisé en son nom. Et le sang a lui aussi rendu témoignage du Christ, puisqu'on en est justifié par son sang. Ils sont donc d'accord puisqu'ils rendent le même témoignage et que Christ vit dans le véritable chrétien. Certains adeptes de la Trinité disent « Puisque le Saint-Esprit parle, il ne peut être qu'une personne. » L'apôtre Luc écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » C'est le Saint-Esprit, la pensée même de Dieu qui dirigea, qui inspira un de ses serviteurs humains, qui priait et jeûnait, et qui lui fit dire ce que nous venons de lire. Ceci est comparable à la déclaration faite par l'Éternel à Caïn. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Nous savons tous que le sang ne peut pas crier, mais la pensée de Dieu en l'homme, l'Esprit de Dieu, peut le pousser à prendre des décisions en conformité avec la volonté de Dieu. Pierre eut la vision d'une nappe descendant du ciel. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici trois hommes te demandent. Qui est cet Esprit ?» La réponse se situe dans les versets précédents où il est question de Corneille. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Qu'est-ce qu'un ange ? C'est un esprit au service de Dieu. C'est encore ce qui se passa lors de la rencontre de Philippe et du ministre de Candace. Un ange s'adressa à Philippe et l'esprit lui dit. L'esprit est l'ange au service de Dieu. On dit aussi, puisque le Saint-Esprit conseille, c'est une personne. On cite alors la conférence tenue à Jérusalem par les apôtres et les anciens, conférence qui aboutit à cette conclusion, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges. » Mais ici aussi, il s'agit de l'Esprit de Dieu qui était en eux, qui les influença et dirigea leurs décisions. L'Esprit peut-il être blasphémé ? Alors on lui emmena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David, le Messie annoncé ?» Les pharisiens ayant entendu cela dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Ces pharisiens savaient que le Christ venait d'opérer un miracle par la puissance de Dieu, mais leur jalousie les poussait à essayer de convaincre la foule que le Christ ne chassait les démons que par Béelzébul, prince des démons. C'est cela le blasphème contre l'Esprit. Il est volontaire et ne sera pas pardonné. Acte 1.8 décrit le Saint-Esprit comme une énergie, du grec dynamo. Dans Jean 7.38, comme des fleuves d'eau vive, le Saint-Esprit descendit sur les 120 dans la chambre haute comme des langues de feu. Paul demande aux chrétiens de ne pas l'éteindre. Dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit peut se manifester. Lisons le récit du baptême de Jésus où il est dit « Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Est-ce une preuve que le Saint-Esprit est une personne, un Dieu ? Non, au pire ce serait un oiseau. Puisqu'il a été nécessaire d'attendre le premier concile de Nicée en l'an 325 pour affirmer, sans aucune preuve biblique, l'existence de la Trinité, d'une troisième personne divine, on pourrait supposer que les premiers chrétiens n'en ont pas eu connaissance. La preuve en est que, lorsque l'apôtre Jean mentionne les membres de la famille divine dans le premier chapitre de son évangile, il n'en fait aucune mention. Lorsqu'il a la vision de la Nouvelle Jérusalem, il n'en fait toujours aucune mention. Il n'y voit que le trône de Dieu et de l'agneau. Il ne mentionne pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est un des trois personnages de la famille divine, des trois hypostases, pourquoi Dieu ne le dévoile-t-il pas dans cette vision de la Nouvelle Jérusalem ? La doctrine d'un Dieu composé de trois personnes émane du paganisme. Les religions babyloniennes et orientales ont cru en une trinité, le père, la mère et l'enfant. Les Égyptiens adoraient Isis, Osiris et Horus. Les Babyloniens déifièrent Nimrod, son épouse Sémiramis et son fils illégitime. Voilà d'où cette doctrine tire son origine. C'est ce que vous constaterez si vous examinez ce sujet en profondeur.